Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, on replonge dans l'actu tech de ce jeudi soir, en ce 20 juin 2024, avec Damien Douani qui est avec nous, responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur de Lab36. De l'autre côté de l'Atlantique, au Québec, eh bien c'est Bruno Guglielminetti, qui est journaliste animateur de son carnet de l'actualité numérique, un podcast que je vous invite vivement à découvrir, à conseiller. Voilà, et puis Frédéric Simotel. Rebonsoir Fred.
Rebonsoir.
On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, on a encore, en secouant le panier, on se rend compte qu'on a encore d'autres sujets liés à tout ça. Et c'est, on va dire, encore une fois, autant se faire plaisir, l'excellence des startups de GenAI françaises.
Européennes et françaises.
Européennes et françaises. Alors, notamment françaises, parce que on se rend compte que, la valorisation des startups françaises est la plus importante d'Europe. C'est ça, Fred?
Oui, exactement. Notamment grâce à Mistral, qui est quand même la...
Oui, qui cartonne en ce moment.
Qui cartonne, qui est au-delà de 5 milliards de valorisation, qui vient de lever 600 millions. Alors, quand on regarde, c'est vrai que souvent, en termes de dynamisme, c'est plutôt le... Alors, c'est une étude qui a été faite. Ouais, c'est Londres. Londres, Berlin, Israël, parce qu'on met Israël dans le pôle européen. Et Paris est quatrième. Mais, si on regarde juste les levées de fonds, eh bien là, on est plutôt bon. Alors, évidemment, c'est dû à nos talents. Alors, il y a plusieurs petites choses. Il y en a une que je vais relever et puis après on débattra de tout ça. C'est que aujourd'hui dans l'IA, c'est assez étonnant. Avant, on avait souvent des startups qui démarraient avec des jeunes qui n'avaient pas forcément eu une carrière dans une entreprise. Ils sortaient de l'université ou ils avaient un peu travaillé peut-être dans un cabinet de conseil. Nos Mistral, nos Lighton, tout ça, ils ont tous bossé chez Meta, ils ont tous bossé chez Google DeepMind, ils ont tous chez ces géants de la tech, donc ils ont eu accès quand même à des technologies, à de la puissance de calcul et tout ça, et donc ils ont un peu compris ce qui marchait, ce qui marchait pas, et je pense que c'est ça, c'est ce qui marche. Et d'ailleurs ils le disent, alors là c'est pour toute l'Europe, sur les 10 startups, 60% des fondateurs sur les 10 startups vraiment montants, 60% des fondateurs viennent, alors, les Américains ils disent pas les GAFAM, ils disent les mamas, parce que le M de Meta et le A de Alphabet, voilà, il n'y a pas le G de Google, etc. Mm-hmm. Ils disent, ils viennent, 60% viennent de ces entreprises. Et c'est une première chose qui change un peu. Puis après, il y a plein de choses. On a aussi des excellentes écoles. Enfin, quand on regarde, c'est Normal Sup, enfin, c'est Ulm, et puis c'est Polytechnique.
Puis on a des labos d'intelligence artificielle en France, à Paris, ouais.
Qui sont Meta, présents, Google
qui ont été ouverts. Oui, mais justement par la proximité des études. Et c'est un moyen de capter les talents, donc de faire en sorte d'aller les chercher à l'école et faire en sorte de les capter, donc d'avoir des talents qu'on pourra ensuite garder, comme tu le disais Fred. C'est ça, c'est en fait c'est 10%, c'est 10 ans en moyenne. Ils ont passé 10 ans dans des GAFAM, et ensuite ils montent leur boîte, donc ils ont roulé leur boss
chez les meilleurs, voilà.
Qui ont justement les ont recrutés à la sortie de l'école très souvent parce qu'ils ont des centres de recherche en France. Ils ont aussi des aides financières du gouvernement, ça aide aussi. Et donc au final, ça crée cette mécanique-là qui est assez intéressante à voir.
Donc évidemment, il y a Mistral, il y a aussi H, cette...
qui est sur le large
mystérieuse, qui a levé 200 millions, je crois.
Oui, eux, ils sont pas dans les LLM, ils sont dans ce qu'on appelle les large action model. Voilà, c'est un autre univers. Mais il y a Hugging Face aussi, bien qui sûr. A fait beaucoup, qui est cette espèce de portail où on vient piocher un peu tout un tas de
et Qtie, bien sûr.
Et Qtie, il y a alors Poolside, Dust, Giscard. Enfin voilà, on en a une petite dizaine comme ça qui sont de très bonnes réputations. Ils sont pas très nombreux. C'est pas des boîtes où ils sont encore 100-500 personnes, souvent ils sont 30-40, mais ils ont leur marché, ils ont leurs clients, ils avancent, ils ont parfois une IA un peu plus frugale que les OpenAI, et puis ça marche, puisqu'ils intéressent des leçons. Et autre chose, juste avant de passer la parole à Bruno, c'est que ce que l'on voit aussi, ce que voit cette étude, c'est que les investisseurs, ils se rendent compte aussi que en Europe, on a des pépites, donc ils cherchent le prochain OpenAI, etc. Mais ils se disent aussi, tiens, aux États-Unis, c'est super cher de mettre de l'argent dans ces boîtes-là. Là en Europe, je mets 600 millions, enfin je suis à plusieurs, on met 600 millions, on a un Mistral. Aux États-Unis, un 600 millions, chez OpenAI, prends un tabouret, donne-nous les 600 millions et prends un tabouret, assieds-toi là, puis tu regardes. Mm-hmm. Là chez Mistral, c'est. Donc je pense qu'il y a quelque chose aussi de ce côté-là.
Bruno, ton point de vue?
Moi, en voyant les chiffres aujourd'hui, c'est drôle, la réflexion que je me suis dit, c'était que finalement, la France allait bénéficier de la fuite des cerveaux. C'est-à-dire, et je m'explique, c'est que pendant des années, si les GAFAM ont fait si bien, c'est parce que le savoir-faire de l'ingénierie française était parti aux États-Unis où servait les intérêts américains. Et puis là, il y a eu comme une nouvelle vague depuis quelques années. Oui. Et c'est probablement parce que, justement, ils ont le goût d'investir pour leur pays, en tout cas d'investir sur leur territoire, leur continent. On voit, et ça, je le vois même au Canada, on voit une vague de jeunes qui ont travaillé dans ces grandes boîtes-là, retourner en France, retourner en Europe pour réinvestir sur le savoir-faire qu'ils ont acquis ici en Amérique. Et ça, je trouve que c'est une belle façon de ramener ça à la maison parce que ces gens-là auraient pu s'installer aux États-Unis et faire leur carrière comme d'autres l'ont fait avant eux. Mais c'est comme si, et les chiffres viennent le confirmer, il y a un savoir-faire qui maintenant... qui vient de l'extérieur, qui maintenant bénéficie à la France et puis à plusieurs pays en Europe. Ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle.
Fred.
Oui, puis on a des très bons informaticiens, mathématiciens donc en IA et qui se révèlent aussi bons entrepreneurs parce que c'était on a eu trop souvent en France le syndrome du on a des excellents ingénieurs mais quand il fallait passer à la phase marketing commerciaux.
Ouais, ça retombait un peu comme
c'est pas gagné parce qu'on a quand même des très bons ingénieurs, on voit Mistral tout, enfin ils cherchent tous leur business model mais on en est qu'au début. Mais on a peut-être franchi un cap aussi de ce côté-là.
Après il y a deux choses à voir. La première, c'est est-ce qu'ils vont arriver à tenir dans le temps? Parce que quand on voit ce que crame OpenAI, par exemple, en termes de capital, est-ce que les VCs y vont tenir pour arriver à les alimenter? Premier point. Deuxième élément, tu le disais, il y a beaucoup de bons talents et c'est tout à fait vrai. Moi, ce que je trouve assez ironique, c'est le fait que finalement, il y a beaucoup de boîtes qui se développent en IA malgré la réglementation que, par exemple, Cédric O de Mistral dit non, c'est la réglementation, c'est difficile, ça nous aide pas pour nous développer. Les chiffres prouvent le contraire. Donc c'est assez intéressant finalement.
Et il y a autre chose aussi pour les investisseurs, et ça c'est important, c'est un domaine, si on pouvait avoir ça dans la biotech, c'est qu'on sait aussi mieux évaluer le potentiel de ces entreprises. Auparavant, je prends l'exemple de la biotech. Pourquoi la biotech se déploient beaucoup mieux aux États-Unis, au Canada notamment, qu'en Europe et qu'en France particulièrement? C'est parce que les investisseurs, ils ont des spécialistes et des experts hyper pointus. Hein. Moi je me souviens de copains, enfin, ou de gens que je connaissais qui ont monté leur biotech. Aux États-Unis, quand on discutait avec l'investisseur, il en connaissait presque autant que nous. Quoi. Il avait un master, il avait fait toutes ses études.
Et ce
là-dedans.
Degré d'expertise leur permet d'investir dans ta boîte parce qu'ils savent où tu vas.
Ils comprennent ce que tu fais. Voilà. Alors que je ne dis pas qu'en France, les gens ne comprennent pas, hein, c'est pas ça. Mais ils ont une expertise tellement pointue que là, ils n'hésitent pas. En France, quelqu'un va comprendre, dire OK, on va mettre 20, 10, 15, 20 millions. Ouais. L'autre, il est capable de dire non, j'ai bien compris, on peut mettre 600, 700 millions. Donc il y a ça aussi. Et là, aujourd'hui, on est capable d'un peu mieux évaluer un peu le potentiel de ces startups.
Bruno.
Non, mais effectivement, ce qu'il dit, c'est vraiment ça. Il y a une expertise aussi qui, parallèlement au développement de la technologie, est en train de finalement servir à quelque chose, et c'est d'évaluer le potentiel des idées qui sont amenées à la table. Ce qu'on n'avait pas... Puis j'imagine que c'est vrai pour depuis plusieurs années, mais dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, particulièrement celui qui est avec l'IA, il y a un savoir-faire qui maintenant sert les financiers, c'est-à-dire à trouver ce qui peut être intéressant, ce qui peut être porteur et ce qui ne le sera jamais.
Très bien. Dans l'actu toujours, alors cette fois-ci, on quitte la France et l'Europe pour nous intéresser à Agen, cette start-up qui avait fait sensation. Il y a quelques mois de cela, on l'avait testé dans Tech & Co. En gros, Agen va vous permettre de recréer des vidéos en vous changeant votre langue maternelle. C'est-à-dire que on avait fait des essais avec moi, avec Fred. D'un coup, je parlais parfaitement chinois avec la synchronisation labiale.
Les intonations.
Mon timbre de voix. Et je parlais parfaitement chinois. Et donc ça
tu parlais dans... naturellement, mais là...
Mais là, c'était pour le test, voilà. Bien sûr. Et Jen avait bluffé tout le monde. Hein. Je pense que Damien, tu l'avais testé aussi.
Oui, j'ai testé
Bruno aussi.
Dès le début, c'est génial.
C'est incroyable. Et Jen est en train de réussir son pari, parce que là, ils viennent de lever 60 millions de dollars. Et de facto, ils sont valorisés 500 millions. pas mal quand même.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit tout le potentiel. Nous, on l'a fait pour s'amuser, mais on imagine. Moi, j'ai vu des grands patrons qui, du coup, quand ils s'adressaient à l'ensemble de leurs employés dans toutes les filiales du monde, ils faisaient un seul discours. En plus, ils le faisaient en hologramme, c'était encore mieux. Et tout d'un coup, en un rien de temps, c'était traduit en espagnol, c'était traduit en allemand. Enfin voilà, dans toutes les langues. Et on voit. Le cas est très concret. Les campagnes publicitaires, on arrête de chercher de faire, on va développer pour tel pays. Enfin voilà, on peut reproduire. Une fois qu'on a fait une création, on peut la faire, mais pas juste en anglais, en espagnol, en chinois et puis en japonais. Non, on peut la faire dans les 200 langues, dans les n'importe quel dialecte, on peut y aller. Donc on voit tout ça et puis on peut créer ces chatbots visuels aussi. Enfin, il y a vraiment, je crois qu'aujourd'hui ils disent 40 000 clients, 35 millions de dollars de chiffre d'affaires. On peut s'abonner aussi.
Ouais, les abonnements, ils ont. Et puis les grandes marques, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a McDo qui a fait une campagne de promo avec Agen. Hein, Bruno, je ne sais pas si tu as suivi ça.
Oui, tout à fait. C'est assez original comme campagne parce qu'on demandait aux jeunes ou enfin aux petits-enfants de grands-parents d'enregistrer un message dans la langue de son grand-père ou de sa grand-mère et pour lui envoyer un message. Et puis au même moment, évidemment, McDonald's en profitait pour inviter les gens à acheter des McFlurry parce qu'il commence à faire chaud, hein, c'est l'été. Mais c'était habile de le faire. Maintenant, c'est de voir. Il y a quand même un petit volet qui est embêté. Parce que si on crée avec Agen et d'autres joueurs comme ça, si on arrive à créer des avatars qui utilisent notre image et notre voix, il y a aussi, on cède une partie de notre ADN. Exactement. Et ça, c'est un peu délicat. Alors, de voir une entreprise, le flash est bon, mais de voir une entreprise commerciale dire, hey, allez utiliser ce truc-là, puis laissez un message à votre grand-mère, au passage, vous laissez votre voix et votre image.
Allez, après, je crois que Agen a mis quelques garde-fous. C'est-à-dire que, par exemple, je ne peux pas prendre une vidéo de Damien et lui faire raconter n'importe quoi. Non, ça ne peut être que la traduction de ce que tu dis véritablement avec ta voix, etc. Donc voilà,
oui,
ils essaient d'imiter les deepfakes.
Tu ne peux pas non plus arriver à faire des voix de personnes connues, mais c'est contournable.
J'ai des cas où ça a été
contourné.
Si tu imites, si tu as des petits talents d'imitation, tu veux imiter la personne connue, on va reprendre la
voilà. Alors après, t'as ça. Tu as des artefacts ou des choses un peu, on va dire, qui sont pas tout à fait précises quand dans les traductions. Par exemple, des fois, il y a des erreurs. Alors, truc très amusant, et c'est un clin d'œil pour toi, Bruno, c'est que quand on traduit quelqu'un de l'anglais vers le français, par exemple, quelle que soit la langue vers le français, je pense que le jeu d'entraînement a été québécois parce qu'en fait, on retrouve des termes typiquement québécois avec une petite pointe d'accent québécois.
C'est vrai.
C'est tout mignon, j'adore. Je trouve ça assez amusant qu'ils aient fait ça. Mais c'est logique pour des Américains, le plus proche pour eux de français, c'est le français québécois. Mais au-delà de ça, ça marche très bien. La question, moi, je me pose, c'est ça. Aujourd'hui, on se plaint de se dire, mais finalement, quand je mets mes photos sur Instagram, Meta peut utiliser mes photos, j'ai écrit des choses, on peut utiliser mes données. Et là, on s'amuse à faire des avatars super sympas, mais on cède, comme tu dis, Bruno, une partie de soi-même aussi. Ça peut être la porte ouverte à des deepfakes.
Ça l'est d'ailleurs, hein, parce que les cyberpirates commencent déjà avec des appels téléphoniques.
Exactement. On peut te faire croire que c'est ta banque qui t'appelle.
Et les arnaques sur les visios. Vous vous souvenez de cette histoire-là?
Oui, avec 12,5 millions de dollars qui ont été virés. Donc, c'est toujours pareil. Avec l'IA, on a la pièce avec l'avers et le revers de la pièce. D'un côté, c'est génial. De l'autre, on peut faire des trucs qui sont, on va dire, très hors la loi. Ça pose des vraies questions. Ce qui est bluffant, c'est de se dire simplement que cette techno, elle est accessible à tout un chacun. Moi, je me suis amusé à faire mon avatar en me filmant 2 minutes avec mon iPhone. Et puis, j'ai balancé ça sur le truc.
Et rappelons qu'il y a eu une petite polémique autour de Agen parce que ça a été créé par des Chinois.
Tout à fait. Mais qui n'ont pas le droit le produit est interdit en Chine.
Oui, exactement. Mais quand même des gens qui. Parce qu'il l'a développé en Chine au départ, parce qu'il a été bloqué là-bas. C'était un étudiant chinois aux États-Unis, bloqué par le confinement. Et il a. Enfin voilà, il y a eu une petite polémique autour de ça. Mais bon, visiblement, ils ont réussi à s'en sortir avec leurs investisseurs récents.
Tiens, si on parlait de Mark Zuckerberg, ça fait un moment quand même. Marco, comment va-t-il? Eh bien, écoutez, Marco, il a le sourire en ce moment. Il a le sourire parce que il y a une partie de son métavers, en tout cas de toute sa stratégie liée, vous le savez, à ses masques VR et à ses lunettes connectées, qui commence à fonctionner. Et contre toute attente, c'est ses lunettes Meta Ray-Ban. Oui. On ne s'y attendait pas parce que le premier modèle qui était sorti il y a 2-3 ans avait été un flop total. Sauf que là, le nouveau modèle qui est sorti, je crois, l'année dernière, évidemment, est beaucoup beaucoup plus puissant. Il y a une petite puce à l'intérieur qui permet de faire de l'IA générative. Et ça cartonne. C'est-à-dire que là, franchement, pour une fois, il y a un produit hardware chez Meta qui marche. Je crois que c'est le premier. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez des portals, des trucs comme ça. Ça a été des flops monumentaux.
Le MetaQuest, il marche. Enfin voilà, il a son marché.
Ouais, mais ça a été racheté. Tu vois, voilà. c'est pas un produit avec Nilo sorti de chez eux. Quoi.
Alors que les Ray-Ban Meta, bon, alors évidemment, c'est fait avec Ray-Ban, mais c'est un produit qui a l'air de fonctionner. Tant et si bien que Mark Zuckerberg en profite pour un petit peu restructurer toutes ses équipes de, à la fois de VR, mais aussi de lunettes connectées. Et il est peut-être en train de se dire que finalement, la bonne voie, c'est pas forcément la VR tout de suite, mais les lunettes, il y a quelque chose à faire là, maintenant, non, Damien ?
Oui, alors, effectivement, comme tu dis, je pense qu'il s'est réveillé un matin, il s'est dit, bah, enfin une bonne nouvelle.
Tiens, mais qu'est-ce que c'est ?
Il y a un truc qui marche.
Je vends un truc.
Voilà, et ça marche.
Donc, et ça marche.
Non, la bonne idée, c'est, ça prouve quand même un truc déjà. C'est qu'un produit peut avoir de très bonnes caractéristiques, parce que là, on retrouve finalement les caractéristiques de la Google Glass, hein. Mais 15 ans plus tard.
Mais sous l'angle FRR.
Mais 15 ans plus tard,
on retrouve un peu plus joli.
Non, mais je veux dire, on retrouve. Non, mais justement, on retrouve la même mécanique qui est la caméra. Tu peux interagir, etc. Mais c'est des Ray-Ban. Donc déjà, ça claque. C'est bien fait, c'est joli. Moi, j'ai essayé à Vivatech l'année dernière et cette année, c'est assez fin, c'est pas trop lourd. Ça déforme pas le modèle initial des Wayfarer, donc c'est sympa.
Non, on ressemble pas à Mr Magoo. Ouais.
Voilà, exactement.
Non, c'est ça. On peut se faire avoir. Hein. Mm-hmm. Tu peux les porter.
Pour ceux qui ont référence de Mr Magoo, quand même.
Ouais, Mr Magoo.
Mr Magoo. Mon Dieu.
Ouais. Tu connais Mr Magoo, Bruno?
Oui.
Ah ben voilà.
Oui. Wow. Bon, et
plus jeunes, rappelons quand même, Mr Magoo, c'était un dessin animé. Hein.
Voilà, avec un bonhomme qui avait du mal à voir et des grosses lunettes.
Exactement, il avait des grosses lunettes.
Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que, oui, c'est une porte d'entrée vers l'IA de Meta, puisqu'en fait, dedans, il y a un petit agent équivalent de Siri ou d'Alexa qui répond, qui permet d'interagir. Donc c'est assez bluffant, parce que ça n'affiche pas d'informations. On n'est pas dans une logique de projection d'informations sur les verres. On n'est pas là-dedans. Donc on n'est pas dans un MetaQuest-like. On n'est pas dans du Apple Vision Pro. On est dans quelque chose de beaucoup plus simple qui rappelle les lunettes qu'avait lancé Snap à l'époque. Mais pareil, les lunettes de Snap, elles étaient jolies, mais c'était très exubérantes. Là, on est dans quelque chose qui est stylé, qui est joli, et donc on a envie de porter. Mm-hmm. Et c'est ça qui est assez malin. Et troisième élément, le prix est accessible, paradoxalement. Et donc finalement, il y a un truc qui se passe avec un bon alignement au niveau des différents éléments du produit.
Et Bruno, je crois que c'est aussi la mise à jour là, qu'a faite récemment Meta avec les nouvelles lunettes qui permet donc d'avoir vraiment de l'intelligence artificielle et de dialoguer avec ces lunettes comme on le fait avec ChatGPT finalement, et de pointer par exemple, de regarder quelque chose et de demander en fait à la paire de lunettes ce qu'on voit, qu'elle nous donne des informations supplémentaires, etc. Et là simplement avec la voix, vous parlez et les petits écouteurs qui sont à l'intérieur des lunettes vous restituent une réponse. C'est ça aussi je pense qui fait le côté un peu succès de ces lunettes, non?
Ouais, et puis j'aimais bien le lien que Damien fait avec les spectacles de Snap parce que on est dans cette tendance-là, c'est-à-dire que d'avoir des montures qui permettent d'avoir des outils à l'intérieur ajoutés, intégrés, et justement tant qu'à avoir des caméras pour faire des films, pour faire des photos, ben justement l'idée de le brancher à une IA qui permet d'analyser ce qui est vu, parce que c'est aussi l'IA qui est derrière ça. Moi, je trouvais ça très habile. Mais il y a une information qui est importante aussi à avoir, c'est que, ça c'est un partenariat entre Meta et Ray-Ban, mais il faut savoir que les gens qui sont derrière tout ça, c'est quand même EssilorLuxottica, qui est un grand fabricant de lunettes à la grandeur de la planète. Et moi, je les avais rencontrés au dernier CES de Las Vegas, et c'est les mêmes gens qui sont en train de travailler avec ce type de monture-là, mais avec un appareil auditif intégré, qui va permettre, juste en regardant la personne devant soi, d'avoir une amplification du son, et ça, c'est quand même pas rien. Alors, de plus en plus, et Meta est un leader dans le domaine avec son partenariat avec Ray-Ban, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de services maintenant qui vont être offerts à partir de montures de lunettes, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus discret qu'un casque Vision Pro sur le bout du nez, et c'est commun. Et les gens sont habitués à ça. Il y a comme une courbe d'adoption là, qui est déjà enclenchée depuis longtemps.
On va terminer avec un autre sujet assez inquiétant qui commence à remonter. C'est les satellites basse altitude qui, vous le savez, permettent de faire des choses incroyables. Hein. Si Starlink aujourd'hui existe, c'est parce que ces satellites sont à 500-600 km d'altitude et permettent d'avoir du très haut débit partout, sans latence, etc. Mais on se rend compte que ces satellites ne sont pas neutres en termes d'environnement. On s'en doutait avant, mais là, visiblement, il y a pas mal de choses. Il y a une étude qui est sortie qui explique que la désintégration en fait de ces satellites Starlink en orbite basse pulvérise une quantité d'oxydes d'aluminium qui sont très dangereux pour la couche d'ozone, Fred.
Oui, alors pour tout vous dire, au départ, quand on a eu cette news-là avec Léa Benaïm qui prépare l'émission avec nous et François, moi au début j'étais
un peu sceptique.
Oh là là, encore un illuminé écolo qui s'appuie sur une étude pour lancer quelque chose. Et donc du coup j'ai appelé Airbus Space and Cyber et eux m'ont dit non, il peut y avoir un vrai souci, alors au fil des années, hein, pas là tout de suite, parce que on est beaucoup sur le cycle de vie de ces satellites, qu'ils soient petits ou qu'ils soient gros, mais dans toute la période jusqu'à ce qu'ils aillent dans l'espace, voilà, qui fonctionnent. Mais le jour où ils vont être détruits, où on ne les utilise plus, ou alors ils ont eu leur cycle de vie, ils reviennent dans la couche atmosphérique, et puis là ils sont brûlés, et puis voilà, on n'en parle plus, tout ça s'éparpille. Mais en fait, effectivement, il y a de l'ergol à l'intérieur. L'ergol, ça veut dire qu'il y a de l'oxyde d'azote qui va se répandre. Et puis, il y a des alumines. Donc, comme tu dis, tout ce qui est oxyde d'aluminium. Et tout ça, quand il y en a un ou deux, ça va. Quand on est en train de parler de centaines, ça va encore. Là, on est en train de parler de Starlink qui envoie 60 000.
40 000, en fait. Ouais, l'objectif, c'est 40 000.
40 000, mais des satellites qui vont.
Mais après, il y a Kuiper, il va avoir OneWeb. Enfin, bon,
t'as Amazon, t'avais Meta qui voulait en faire aussi.
Oui.
Là-haut, c'est le périph. Hein.
OneWeb, il en faudra moins, donc voilà, ils vont peut-être un petit peu moins polluer. Mais en tout cas, on s'est pas beaucoup intéressé à ce cycle de vie.
Le truc qui est terrible, c'est de se dire simplement qu'on a des satellites qui sont avec une durée de vie limitée,
5 ans,
une obsolescence programmée d'appareils. Là-haut, c'est une poubelle. On ne le voit pas, donc ça ne nous gêne pas. Quand ça tombe sur Terre, ça tombe dans la mer, donc on ne le voit pas non plus. Mais c'est une catastrophe. C'est une vraie catastrophe.
Mais en théorie, ça se désintègre. En théorie, ça se désintègre. Parce que c'est des petites
particules.
Exactement.
Bruno, sur ce sujet. Pour terminer.
Moi, je pense que la solution, c'est l'approche japonaise. Vous avez tous entendu parler du fameux satellite qui est construit en bois, qui va être envoyé dans le ciel. Il faut peut-être revenir à des matières premières plus nobles et on verra ce que ça va donner. Mais effectivement, le calcul, c'est de voir est-ce qu'on peut les envoyer, plutôt que les envoyer pour revenir sur la Terre, est-ce qu'on peut les envoyer beaucoup plus loin de la Terre et peut-être polluer plus loin aussi.
Ouais, mais le problème, c'est que tu perds tous les avantages en fait de la basse orbite. Vous voyez, le taux de la latence basse, etc. C'est ça.
Non,
aussi.
Mais les envoyer plus loin une fois qu'ils sont fichés. Je pense que Bruno dit.
Ah, bah dire après, au lieu de retomber, qu'ils partent, qu'ils s'éjectent en quelque sorte.
C'est pour ça qu'aujourd'hui on a des startups qui sont déjà venues ici, certaines qui repèrent un peu tous ces déchets et qui vont envoyer aussi des satellites poubelles qui vont venir aller chercher tous ces déchets et puis pouvoir les ramener.
C'est génial la technologie qui résout un problème créé par la technologie. Le technosolutionnisme. Oh là, c'est fabuleux.
Déjà qu'il y a la voiture d'Elon Musk qui se balade quelque part. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, elle ne doit plus ressembler à grand chose.
On ne sait même pas où elle est, cette voiture.
Elle est du côté de Mars.
Mars, d'accord. Okay.
Je pense qu'elle a été un peu abîmée quand même.
Elle arrivera sur Mars avant Elon Musk.
Certainement, il la retrouvera.
Merci beaucoup à tous les trois. Ça sera le mot de la fin de ce débrief de l'ActuTech. Merci beaucoup Bruno. Bruno qui était en visio avec nous ce soir, journaliste, animateur du carnet de l'actualité numérique, un podcast que je vous invite véritablement à découvrir. Damien, merci.
Plaisir.
Damien Douani, responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur de l'App36. Et merci à Fred Simotel.